Bonjour à toutes et à tous. Saviez-vous que, selon une étude anglaise sur le monde du football, 30% des joueurs professionnels sont issus des minorités ethniques, mais seulement 3% des entraîneurs? Le sport est un magnifique vecteur d'inclusion, mais avec des limites. Comment les dépasser? C'est le sujet de la table ronde que j'ai eu le plaisir d'animer le 26 mars dernier au Kawa Paris, rue Daumesnil. Elle avait pour titre « Diversité et inclusion, et si on s'inspirait du monde du sport ?» Pour en discuter, j'ai eu le plaisir d'accueillir trois experts du sujet. Arnaud Gandet, qui est directeur de programme chez les clubs sportifs engagés. Chloé Carré, qui est vice-présidente de la Fédération sportive et culturelle de France, et Olivier Laplanche, directeur du master spécialisé sur le management du sport de la Odessia Business School. Vous allez l'entendre, ils ont des avis bien tranchés sur la question, ils connaissent le monde du sport de l'intérieur et ne manient pas la langue de bois. Que faut-il faire pour que le sport devienne véritablement inclusif? Vous le saurez en écoutant mon échange avec Arnaud Gandet, Chloé Carré et Olivier Laplanche. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast By Doing Good. On est ensemble aujourd'hui avec Arnaud, Chloé et Olivier. Bonjour à tous les trois. Et on est en public depuis le Kawa, Paris 12e, à Daumesnil, un lieu magnifique dédié à l'économie sociale et solidaire. Et on est ravis chez Big Bloom d'être partenaire de cet espace. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour une quarantaine de minutes autour d'un sujet splendide. Diversité et inclusion, et si on s'inspirait du monde du sport. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Arnaud Gandet. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Arnaud, tu es directeur des programmes et des partenariats au sein des clubs sportifs engagés, c'est bien ça?
Absolument.
J'ai avec moi Chloé Carré.
Bonjour.
Bonjour Chloé, tu es élue et tu es vice-présidente de la Fédération sportive et culturelle de France, c'est bien ça?
C'est tout à fait ça.
Voilà, et enfin, Olivier Laplanche. Alors, nous, on se connaît. Olivier, bonjour.
Olivier, bonjour, Yvan.
Tu es directeur du master spécialisé management et responsable des organisations de sport au sein de l'école Odensia. On va commencer par toi, Arnaud, hein, si tu veux bien. Est-ce que tu aurais la gentillesse, Arnaud, de nous dire en quelques mots qui tu es et quel est ton parcours?
Bah écoute, moi, j'ai d'abord un parcours dans le sport professionnel. J'ai été pendant 15 ans entraîneur en première division de handball féminin à Paris. Ensuite, j'ai géré un autre club professionnel, mais de volley ce coup-ci. Et puis, pendant 20 ans, j'ai eu aussi besoin de redonner un petit peu de sens. Et le Covid est passé par là. Et donc, j'ai créé une structure qui s'appelle Match for Green, qui accompagne et sensibilise tous les acteurs du sport aux enjeux du développement durable, qui est devenu l'Institut du sport durable depuis quelques temps. Et puis, pour couronner le tout, l'année dernière, j'ai rejoint les clubs sportifs engagés, qui est une initiative du ministère des Sports et du ministère du Travail, et qui est hébergée au sein de France Travail et qui vise à développer une communauté de clubs qui s'engagent en matière d'insertion socio-professionnelle. Donc voilà, j'aurais bouclé du sport professionnel à l'environnement et aux sujets sociaux, tout ce que le sport peut apporter à la société.
Tu nous donnes un ou deux exemples de ce que vous mettez en place au sein de ce programme des clubs sportifs engagés ?
Alors, il y a plusieurs sujets. Il y a d'abord le sujet de l'acculturation, c'est-à-dire que naturellement, même si beaucoup de clubs font d'insertion sociale, ils ne s'en aperçoivent pas toujours. Et donc, c'est déjà de les acculturer sur la puissance du sport pour remobiliser certains publics, et notamment des publics éloignés de l'emploi. C'est aussi donner envie à certaines entreprises de recruter autrement. Vous avez l'exemple du Stade vers l'emploi qui fonctionne très très bien, où on peut recruter sans CV des personnes qui sont éloignées de l'emploi juste sur des savoir-être et d'autres types de compétences que celles qui peuvent être écrites sur un CV. On a la remobilisation bénéficiaire du RSA, on a des sujets d'accompagnement des primo-arrivants grâce au sport. Enfin voilà, le sport donne confiance, le sport permet de retrouver de la confiance et de lever des freins périphériques à un retour à l'emploi.
Ouais, super. Donc toi, tu as d'abord un parcours, tu connais le sport, je dirais, de l'intérieur. Et aujourd'hui, tu animes une communauté, un collectif pour promouvoir les valeurs du sport, on peut dire ça comme ça?
Absolument, avec un objectif de 10 000 clubs engagés à la fin de l'année 2024. On est à 2500 maintenant. Et puis, ce travail qu'on doit faire sur l'acculturation du mouvement sportif, mais aussi, imaginez bien que le sport au sein de France Travail, ce n'est pas une évidence.
Okay.
Et on a aujourd'hui 59 collaborateurs qu'on doit aussi acculturer au sujet du sport et de se dire, grâce au sport, on peut remobiliser des personnes éloignées. On peut les identifier déjà parce qu'ils sont potentiellement dans des clubs, on peut leur permettre de revenir dans un club pour justement créer du lien,
ouais,
pour se redonner confiance, développer d'autres types de savoir-être et ensuite rebasculer vers des parcours professionnels, soit en formation, soit directement auprès d'entreprises.
Ok. On revient vers toi, Arnaud, dans quelques minutes. Chloé, donc toi, tu es élue vice-présidente à la Fédération sportive et culturelle de France. Comment est-ce que tu en es arrivée là?
Je suis professeure de PS de formation, donc le sport a toujours fait partie de mon parcours professionnel et associatif. Et à partir de l'âge de 18 ans, j'ai pu bénéficier de programmes de formation de dirigeants dispensés par les fédérations. Donc je suis montée petit à petit dans les échelons jusqu'à devenir aujourd'hui vice-présidente. Pourquoi vice-présidente? Parce que je suis convaincue qu'il faut mettre en place un certain nombre de choses pour que le sport retrouve de la valeur aux yeux du monde associatif, mais aussi aux yeux de ceux qui pratiquent. Et donc, à travers notamment des notions de développement durable, d'insertion par le sport, les clubs sportifs engagés, c'est un programme qu'on suit à la fédération, par la digitalisation des pratiques, l'accès à des nouvelles pratiques sportives par les publics qui en sont éloignés. Voilà, par toutes ces actions-là, je suis convaincue que le sport peut retrouver la dorure de son blason qu'il a connu auparavant. Donc, je me suis engagée dans cette voie-là avec
Bravo,
beaucoup
c'est
de
bien.
courage.
Il faut s'engager, c'est super. C'est quoi ton programme alors à toi, Chloé? Sur quel programme est-ce que tu as été élue?
Alors, j'ai été élue sur un programme où la responsabilité sociétale des organisations, elle est au cœur de l'activité sportive. Notre projet éducatif, il est basé autour de valeurs. Donc, la performance n'est qu'un aspect, la compétition n'est qu'un aspect des activités sportives et culturelles qu'on propose à nos licenciés. La question du sens, elle est prédominante. La question du parcours citoyen est prédominante. Et c'est vraiment par la responsabilisation à tous les échelons qu'on vise à ce que les licenciés, en fait, gagnent en liberté petit à petit au fil de leur parcours de vie.
D'accord, ok, très bien. Eh bien, merci pour cet engagement et puis ravi de t'avoir avec nous. Je finis ce tour de table avec Olivier. Alors, nous, on se connaît, Olivier, de ton job précédent. Aujourd'hui, tu es directeur d'un master chez Audencia. Tu nous dis aussi deux mots sur ton parcours, toi, Olivier?
Ouais, bah les DRH en France, je dirais que c'était un parcours atypique
Ouais.
et j'en suis plutôt fier. Mais il y a toujours eu du sport et de l'activité physique. Donc en effet, on s'est connus, toi et moi, lorsque je travaillais à la Camis Sport et Cancer, et donc vraiment en étant très actif sur un lobbying, notamment de prise en charge pour l'activité physique thérapeutique en France. Et on y arrivera un jour. Et donc un salut amical à Thierry Bouillet, Jean-Marc Décote et toutes les équipes. Mais en fait, depuis le début, j'ai été soit entraîneur bénévole, mais soit entraîneur salarié, mais à mon niveau, pas sur l'équivalent d'une D1, mais déjà sur un sport où il n'y a pas de ballon, mais il y a de l'eau, il y a des rivières. Donc voilà, moi, c'est l'aviron, ma
L'aviron.
discipline.
D'accord.
Et j'ai eu la chance, et je suis toujours bénévole, mais j'ai travaillé 6 ans en Grande-Bretagne dans un espace qui était en train de se reconfigurer pour Londres 2012. Et du coup, dans ce cadre-là, j'ai à la fois entraîné des moins de 23 qui ensuite sont allés ramer pour les équipes britanniques, mais aussi notamment à Glasgow. Voilà, j'ai été sur des enjeux très, très forts de diversité et d'inclusion. Moi, le fil rouge, il est là, c'est-à-dire que peut-être ma plus grande fierté, c'était d'amener des jeunes gamins des écoles, des quartiers assez difficiles. On ne va pas se cacher, ce sont les écoles catholiques en Écosse, hein, parce qu'on a vraiment un distinguo très, très fort entre encore les écoles protestantes, les écoles catholiques, et amener des jeunes garçons à faire de l'ergomètre, donc de l'aviron en salle, entre midi et deux, quand tous les autres vont faire du football et que les jeunes qui font de l'ergomètre, qui restent avec moi dans le grand hall, se font insulter.
C'est quoi l'ergomètre?
C'est le rameur, en fait.
D'accord,
Voilà,
ok.
nous, les rameurs, on dit que c'est de l'ergomètre. Donc voilà, avec une chaîne, ça fait du bruit, une hélice qui fait du bruit. Mais tous ces jeunes garçons et ces jeunes filles se faisaient en fait insulter copieusement par ceux qui allaient faire du foot, en fait. Et le but du jeu, c'était pas simplement qu'ils fassent un trimestre d'aviron en salle, c'était de les faire ramer sur la rivière au stage aux vacances de Pâques. Au-delà de la pratique, c'est parce que c'est ne serait-ce que la frontière géographique et sociale, en fait. La rivière dans Glasgow, la Clyde, c'est des endroits où vous n'allez jamais. Donc c'est juste déjà géographiquement les amener dans un espace de la ville où ces gamins-là ne vont jamais habituellement. Et ça, je l'ai fait pendant 2, 3 ans et j'en suis extrêmement fier. Et on voit le vecteur que peut être l'activité physique. Et le sourire de ces gamins-là dans Glasgow Green, sur la rivière Clyde au mois d'avril, c'était juste extraordinaire. Et maintenant, il y a toujours cette idée de transmission, de formation, évidemment, dans une grande école, de la Conférence des grandes écoles, Audencia. On a des campus à Nantes et on a notamment un campus à Saint-Ouen. Et on est en train de lancer énormément de choses autour du sport. Évidemment, le sport business a besoin de nos futurs managers qu'on forme très, très, très bien. Mais on a aussi besoin de cette responsabilité dans le sport, par le sport, à travers le sport.
Moi, ce qui m'a frappé en préparant cette table ronde, c'est une situation finalement assez contrastée dans le sport, parce que Il y a une dimension un peu exemplaire, je trouve, dans le sport, par sa capacité justement d'intégrer des populations qui, parfois, ont plus de difficultés à trouver un parcours scolaire qui leur convienne. Et en même temps, eh bien, une situation qui montre que dans les fédérations, les salariés des fédérations, les populations d'entraîneurs, etc., finalement, ne sont pas si diversifiés que ça. Ma première question, elle porte sur votre lecture de la situation. On est là pour parler diversité et inclusion. Selon vous, qu'est-ce qui marche bien? Qu'est-ce qu'on a réussi à faire collectivement dans le monde sportif? Et c'est quoi un peu l'étape d'après? Qui commence?
Alors peut-être moi je veux bien commencer sur où en est le sport sur ces sujets-là. Parce que peut-être il faut bien comprendre que le sport, il s'est construit, peut-être malheureusement, autour de la compétition. Et le mouvement sportif s'est construit autour de la compétition. Nos clubs sportifs, on le voit bien, on emmène nos enfants pour aller faire de la compétition. Et ça fait que quelques années seulement qu'on se dit, dans le club sportif, on peut faire autre chose que de la compétition. Ça commence à venir, c'est assez long quand même. Et ça a quelques inconvénients. D'abord, un, ça veut dire qu'on a des éducateurs sportifs dans les clubs qui sont plus des entraîneurs qui agissent sur la performance que sur m'épanouir, prendre du plaisir, du bien-être, etc. L'autre inconvénient majeur, c'est que ça laisse sur le bord de la route tous ceux qui ne veulent pas faire de compétition. Je rappelle juste un chiffre, aujourd'hui, c'est 15 millions d'adhérents dans les fédérations sportives. Et c'est aujourd'hui 35% des Français qui ne pratiquent pas d'activité physique régulière. Donc à la fois, on voit bien qu'il y a des personnes qui pratiquent une activité physique en dehors de ce cadre fédéré, et il y en a aussi plein qui ne trouvent pas une offre de pratique pour pouvoir pratiquer. Donc quand on parle d'inclusion, faut bien finalement, c'est un peu excluant de considérer le sport et le mouvement sportif fédéré uniquement sous le prisme de la compétition. C'est aussi pour ça qu'il y a des fédérations qui sont en train de tirer leur épingle du jeu. C'est des fédérations qui, justement, ne sont pas sur une seule discipline et ne sont pas axées sur la compétition. Et on a quelques exemples, hein, et notamment Chloé à côté, qui peut peut-être nous expliquer comment une fédération qui est affinitaire peut répondre à cet enjeu d'inclusion.
Bah en fait, je vais complètement dans ton sens. Je pense qu'il y a un domaine qu'on commence à prendre en compte petit à petit, et le baromètre des pratiques sportives le montre, c'est que l'aspect santé et l'aspect filiation, on vient pour être avec des gens, pour se socialiser. C'est les deux premières motivations à
OK,
pratiquer.
intéressant.
Aujourd'hui en France, en 2022, les gens viennent principalement pour ça.
Ouais.
Je pense que le domaine santé est en train de prendre une place de plus en plus prégnante. On a les maisons sport santé qui se développent, on a le sport sur ordonnance qui se développe. On a des applications et des structures qui permettent de mettre en relation praticiens et patients.
Ouais.
Donc, les fédérations affinitaires et notamment la mienne, on s'est emparé de ça en mettant en place des programmes dont le nôtre, par exemple, s'appelle Atouform. On va démarcher des structures, des associations, elles s'engagent aussi, elles font la mise en place d'une charte où elles expliquent leurs engagements, elles cherchent des praticiens, elles forment leurs éducateurs. On est vraiment sur aller chercher ce public qui aurait pu s'éloigner de la pratique parce que sa santé ne permet plus de pratiquer, en tout cas plus de pratiquer de façon compétitive ou performante. Et on essaye de les ramener petit à petit vers l'activité physique.
Ouais, d'accord. Et c'est intéressant de t'entendre dire effectivement que cette dimension sociale, en fait, elle est fortement mobilisatrice, en fait. C'est une des raisons pour lesquelles les personnes s'engagent. C'est quoi votre sport de prédilection? J'ai oublié de vous demander, Chloé, c'est quoi toi, ton sport?
Gymnastique, athlétisme.
Gymnastique et athlétisme. Et toi, Arnaud, c'est quoi?
Handball.
Handball. Ok, tu dis ça avec une petite moue parce que...
Alors, 15 ans, forcément, entraîner l'équipe de D1 de handball, je ne peux pas dire autre chose
Je ne
que
peux pas dire
ça.
autre chose. Ok, d'accord. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Olivier, de ton point de vue, toi, diversité et inclusion dans le monde du sport?
Oui, je pense qu'il y a deux choses. Je pense qu'on a tous en tête des très, très bons exemples de plein de choses qui sont en effet en train d'être imaginées, d'être rendues opérationnelles depuis quelques années. Il y a quand même des constats que nous, ici, là, on a en tête autour de la table parce qu'on est dedans tous les jours. Mais il faut quand même le redire, en fait, c'est que si on parle de diversité et d'inclusion, malheureusement, statistiquement, hein, quand on parle de pratiquants, de pratiquantes, bah déjà, justement, là, il y a un problème. C'est-à-dire que, en fonction des territoires et en fonction de l'âge, la pratique féminine est beaucoup moins importante, beaucoup moins importante que la pratique masculine. Ensuite, dans des territoires, elle est même rendue quasiment impossible parce que les hommes, les mâles, occupent l'espace sportif de manière juste bien trop importante et ne donne pas la place aux femmes qui n'ont pas envie d'y aller. On peut les comprendre. Quand on est en situation de maladie chronique, évidemment que c'est difficile. Et pourtant, dans l'autre sens, ça pourrait extrêmement aider. Donc, il y a beaucoup d'enjeux là derrière. Et après, on peut, en fait, malheureusement, plus on va être vers soit une minorité, soit des populations qui sont en difficulté, plus on va être éloigné de la pratique. Alors que normalement, cette pratique-là devrait justement contribuer et être vecteur d'amélioration de l'état de santé, de l'intégration, d'inclusion. Voilà. Donc, il y a des chiffres quand même qui font peur hein, sur le déconditionnement des Européens en général, mais de la population française quand on est jeune. Voilà. Donc, il faut. Et c'est l'État, la France et les organisations sportives à date, jusqu'à maintenant, qui ont produit ça. Voilà. Mais en revanche, il y a plein de solutions, en effet. Moi, je le regarde juste de mon côté. Maintenant que je suis chez Audencia, je dirige un master qui existe depuis 32 ans. Ce n'est pas moi qui l'ai créé.
Ah, okay. Mais on est... 32 ans.
Ouais, ouais, ouais. Il y a 32 ans, personne, même les staffs ne parlent pas de management du sport dans les années 90.
Okay.
Et voilà, il y a eu cette intuition un peu folle chez Audencia. Et le master est toujours là. Mais il y a une vraie révolution. C'est-à-dire que moi, c'est un master que j'ai fait comme étudiant. J'ai été professionnel, j'ai eu des étudiants qui nous accompagnaient en études terrain. Et maintenant, je le dirige.
D'accord. Okay.
Je connais un peu le 360. Okay. Et dans les 10 dernières années, c'est pour ça que l'acronyme est un peu compliqué parce que c'est le management responsable des organisations sportives. On n'est pas du tout pour se donner le petit sésame de greenwashing ou de social washing. Voilà. Moi, maintenant, je suis challengé par les candidats, les candidates qui postulent pour me rejoindre l'année prochaine sur le master et qui me disent, vous annoncez être responsable, en quoi êtes-vous responsable?
C'est ça, ouais, des preuves.
Et il y a 10 ans, moi-même, peut-être un tout petit peu plus, mais le reste de la promo, je me souviens très, très bien, ce n'était pas du tout au cœur des sujets des futurs managers qui iront ensuite chez tous les ayants droit, chez les marques, chez les clubs, dans les tous nos copains des grandes agences de communication événementielle ou partenariale. Et donc là, on voit éclore en effet, en plus des politiques publiques, on voit éclore une génération ou des générations. Par exemple, cette année, j'ai plus de femmes que d'hommes dans le Master MOS.
Okay.
Je pense que sur toutes les... Il y a plein d'écoles dédiées au sport. Hein, je pense qu'on est les seuls, que c'est la première fois. Et c'est juste génial.
Ouais.
Et j'ai commencé l'année en leur disant, mesdames, vous êtes les bienvenues. Et c'est à vous de révolutionner le sport dans les années qui viennent. Que vous soyez chez une grande marque où il y a trois bandes, que vous soyez dans un club financé par tel pays du golf ou autre, à vous de changer les codes.
Donc, il y a cette féminisation du métier. Il y a quoi d'autre qui a changé en 20 ans, Olivier, puisque tu as vécu de l'intérieur tous ces changements.
Il y a cette vraie diversification et cette acculturation qui a été faite, qui est encore à faire. Ma casquette précédente, quand on s'est connu Yvan, puis celle du moment, ça en est la preuve. Et du coup, ce sport santé, il arrive dans les clubs. Il y a 5-6 ans, personne ne savait quoi en faire, à part un peu des fous furieux du côté de l'Académie Sport et Cancer, parce que c'était leur moteur depuis 20 ans. Mmh. Quand il n'y avait pas le moindre cadre, il y avait juste deux articles au Canada qui ont dit « Apparemment, cancer et activité physique, il y a une relation positive.
Okay. »
Et les deux, là, se sont jetés sur le truc.
Ouais, c'est le sport et la santé, en fait, ce que tu
voilà, exactement. Et maintenant, ça y est, les fédérations, les clubs... mais aussi tous ceux qui sont affinitaires ou en affinité avec, c'est pas forcément des clubs purs et durs comme on l'entend maintenant,
ouais.
Et on comprend que le sport et l'activité physique sont des vecteurs, non pas que uniquement de compétition, même si moi je suis un fou furieux de la haute performance, hein. Là en ce moment je suis bénévole et j'entraîne les seniors de mon club d'aviron en Touraine, hein.
Okay.
Je sais que ça leur fait du bien, mais ils sont aussi là pour gagner, mais dans le même club il y a aussi une section féminine, il y a tous les programmes autour des femmes touchées par un cancer du sein, hein. Mais tout ça, moi quand j'ai démarré gamin et que j'avais parti en compète, ça n'existait pas,
ouais, c'est ça. Arnaud, c'est quoi les initiatives que tu as pu observer qui sont particulièrement exemplaires de ton point de vue sur cette démarche d'inclusion?
Alors, il y en a beaucoup, mais peut-être juste avant, parce que je disais tout à l'heure que le constat, notamment autour du sport, compétition, était dramatique. Il l'est à plein d'autres égards. Hein. On parlait de l'inclusion tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est 2,6% des clubs sportifs qui accueillent et qui sont en capacité d'accueillir des personnes en situation de handicap.
2,6%.
Ouais. Ça vous laisse un peu imaginer le manque d'offres de pratique pour ce type de population.
Ouais.
Aujourd'hui, on le disait, hein, c'est 39% uniquement de féminines dans les clubs sportifs. Donc, on voit bien qu'il y a un sujet de parité. Donc, on a encore des obstacles qui sont assez lourds à mettre en œuvre. Sur le sport santé, aujourd'hui, un peu plus de 500 maisons de sport santé en France, ce qui est quand même assez peu.
Ouais.
On regarde le besoin, et qui se heurte quand même. Trois sujets majeurs. Premier sujet, c'est le financement, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un modèle de financement des maisons de sport santé. Donc, c'est des appels à projets, c'est des collectivités qui veulent donner un peu d'argent, etc. Donc, il n'y a pas un modèle qui est construit qui permettrait de pouvoir passer à l'échelle et d'imaginer se déployer. C'est un vrai regard parfois pas très agréable que peut avoir le monde médical vis-à-vis d'éducateurs sportifs. C'est-à-dire que je n'ai pas spécialement confiance. Moi, je suis médecin. Un éducateur sportif, il n'a pas le même parcours que moi. Et donc, comment je lui confie des patients? Donc, il y a ce sujet-là. Et puis, il y a le sujet du lobbying qu'il ne faut pas oublier quand même, parce qu'aujourd'hui, on est dans un pays où si les gens vont mieux, il y en a qui vont gagner beaucoup moins d'argent. Et donc, il ne faut pas oublier ça. Donc, il y a des vrais sujets. Néanmoins, heureusement, il y a des bonnes initiatives et il y a des choses qui se mettent en place. Et donc là, on peut effectivement, en fonction des différents sujets, regarder tous les clubs qui commencent à se mettre sur l'offre de pratique à destination des seniors. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est senior et donc qui commence à être à la retraite, il est en pleine forme, il a envie de faire des activités physiques. Et aujourd'hui, on était un peu dépourvu d'offres de pratique, si ce n'est ces gens qui partent en cohorte ensemble pour aller faire une randonnée, aller faire une escapade, etc. Donc, comment on organise une offre de pratique qui puisse aussi répondre à des besoins de lien social? Il y a ce que je disais tout à l'heure hein, sur les réfugiés, exemple très concret, j'ai l'histoire du club d'Orchies dans l'Indre, là où ils étaient au bord de déposer le bilan, et puis finalement, il y a des réfugiés qui étaient là et qui ont dit, mais nous, on aimerait bien jouer. Et donc, ça a sauvé le club. Et en plus, ça leur a permis d'être insérés, etc. Donc, il y a des superbes histoires à raconter autour du sport et sur la puissance que peut avoir le sport pour remobiliser des acteurs. Et puis, j'en ai des dizaines sur les bénéficiaires du RSA qu'on ramène à l'emploi, le Stade vers l'emploi qui permet chaque année, et cette année, 500 Stades vers l'emploi qui vont permettre de mettre en lien des demandeurs d'emploi, des employeurs. Personne ne sait qui est qui le matin, on fait des activités physiques, on lève l'anonymat, on fait du job dating, c'est 60% de retour à l'emploi au bout de 6 mois. Donc c'est quand même des chiffres qui dépassent largement la moyenne de ce qui se fait aujourd'hui. Donc il y a des initiatives et donc il faut bien les repérer, les faire passer à l'échelle et surtout inspirer le mouvement sportif pour qu'il s'empare de ces bonnes pratiques.
Chloé, tu en as, toi, en tête des belles histoires. J'avoue que moi, j'aime beaucoup toujours ces bonnes pratiques. Je les trouve très inspirantes et porteuses d'espoir aussi, d'ailleurs.
Oui, bah on a un certain nombre de clubs qui sont engagés dans les clubs sportifs engagés. On va mener, nous aussi, cette opération du Stade vers l'emploi.
OK.
J'ai en tête une association sur Paris qui s'appelle Hustle Paris, qui est à fond engagée en fait, dans tout ce que propose la fédération. Ils se sont vraiment emparés de cette idée de projet social et citoyen. Et
Ouais.
donc, ils mettent en place de la digitalisation des pratiques, donc avec la location de murs interactifs où en fait on vient créer de l'activité physique de façon ultra ludique avec des ballons qu'on lance contre un mur et qui reviennent, etc. Et donc il y a tout cet aspect aussi social et cognitif qui se développe parce qu'on peut avoir des jeux collaboratifs. Ils vont mener du stade vers l'emploi. On est sur une association qui est toute jeune avec des bénévoles qui sont eux aussi dans le monde professionnel à côté, qui doivent jongler entre les deux, qui envoient des bénévoles en formation. Donc ils se sont bien saisis de cette opportunité que peut être une association en 2024 dans tout ce qu'elle offre en termes de responsabilité sociétale, de parcours citoyen, de transmission des valeurs, etc.
D'accord. Et puisqu'on en parle, comment on peut s'inspirer de ce qui se fait dans le monde du sport et le transposer dans d'autres contextes professionnels, je pense au monde de l'entreprise ou ailleurs?
Comment on fait? Vaste question. On prend déjà ce qui fait sens pour les gens, en fait. Je pense qu'il est question de créer avant tout des expériences positives. On sait que c'est une émotion positive qui va engendrer la répercussion d'un comportement, en tout cas la capacité à le reproduire à nouveau. Donc on crée des expériences positives et on met du sens sur ce que vivent les gens. C'est parce qu'ils vont venir prouver ce qu'ils ont cherché, qu'ils vont avoir envie de le transmettre à nouveau. Donc c'est par l'accompagnement, c'est par la montée en compétence, c'est par la reconnaissance des bénévoles. C'est une discussion qu'on avait tout à l'heure. Voilà, l'indemnisation, la valorisation du temps bénévole, ce sont des choses qui vont donner aux gens envie de revenir et qui
Ouais.
vont permettre aussi un petit peu de professionnaliser, même si ce n'est pas trop le terme qu'on voudrait employer, mais c'est ce qui va permettre aussi de pérenniser et de développer ces pratiques qui sont plutôt vertueuses.
Olivier, est-ce que toi tu as l'impression que les étudiants que tu as dans ton master, ils sont pétris de valeurs du sport ou pas forcément finalement?
Bah, là encore, il y a de la diversité finalement, même dans une promo, on va dire, d'une quarantaine d'étudiantes ou d'étudiants. Alors, ils viennent tous en nous disant à chaque fois, moi, je suis passionné de sport.
Ouais.
Super, heureusement, pour
Ouais.
rejoindre une formation comme la nôtre, mais ça fait pas tout, en fait. Et, Mais il faut qu'ils viennent avec des expertises. Déjà, nous, on est sur un bac plus 5 slash 6, un hein, master spécialisé. Ils viennent tous, j'ai des ingénieurs, j'ai des juristes, j'ai des politistes, j'ai des STAPS, évidemment, et toutes les grandes écoles de commerce, Audencia, mais pas uniquement. Et ils viennent très souvent, ou ils venaient, comme je disais tout à l'heure, avec des envies de marketing, des envies de sponsoring, des voilà. Sauf que maintenant, ils vont nous dire, bah oui, mais j'ai envie de marketing vertueux, j'ai envie d'un sponsoring intelligent. Comment on pourrait, il y a tous les grands enjeux autour du sport, hein, de décarboner le sport professionnel, par exemple. Ça, c'est des termes, décarboner sport professionnel. Il y a 3 ans, personne ne prononçait ces mots dans la même phrase.
Wow.
Déjà, décarboner, à voir qui le prononce encore
Ouais.
pour le moment. Mais il y a tous ces enjeux. Là, c'est au cœur. Alors, peut-être pas de 100% de mes étudiants et étudiantes, hein, mais moi, je fais exprès, je les provoque, je vais chercher des intervenants qui sont en ce moment dans cet écosystème. On est plusieurs à les connaître. Il y a des grandes associations, il y a des charities qui sont au taquet, il y a des boîtes, hein, qui sont là pour conseiller maintenant. Comment faire pour il y a des applications qui gagnent un peu tout en ce moment comment faire pour que le covoiturage s'organise puisque ce qui coûte ce qui pollue le plus hein, le bilan carbone du sport professionnel en fait c'est d'abord le transport des spectateurs
Ouais,
voilà
OK.
des grands événements sportifs pas que le sport professionnel d'ailleurs et ensuite comment les gens peuvent s'organiser comment décarboner un stade. Comment voilà et évidemment quand nous on croise bah, les responsables RSE dans les clubs professionnels ils sont tout le monde n'en a pas tous les clubs n'en ont pas mais moi mes étudiants et étudiantes ils sont ravis d'échanger avec eux donc ce sont des métiers qui sont en train d'émerger et des pratiques non pas du sport lui-même mais autour du sport qui sont en train d'émerger.
Arnaud, moi je dirige un club sportif, j'ai envie que mon club s'engage. Par quoi est-ce que je commence?
Alors, je pense que déjà, il faut, nous en tout cas, notre croyance, c'est d'arrêter de vivre en silo. C'est-à-dire que le monde sportif s'est habitué à être un peu le parent pauvre. Tu sais, comme quand on fait les emplois du temps, c'est toujours le vendredi de 15h30 à 17h30 le sport. Et c'est fait par des bénévoles. Donc, c'est jamais important, tu vois, c'est du loisir. Et donc, je pense qu'il faut arrêter d'avoir ce complexe d'infériorité. Et le sport a tellement de valeur à apporter qu'il faut vraiment qu'on prenne confiance. Il faut sortir du silo. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le monde du sport, s'il reste en silo, eh ben, il ne va pas pouvoir beaucoup avancer parce qu'il a un modèle économique qui est très fragile. Seulement 10% des clubs sportifs ont un emploi, hein, quand même, il faut se rappeler. Ça veut dire qu'il y a 90% des clubs qui sont gérés par des bénévoles. Et donc, on est dans une logique où si on dit bah, on n'est pas très crédible parce que travailler avec des acteurs de l'emploi quand on n'a pas de professionnel dans sa structure, ce n'est pas très crédible. Donc, on a un vrai besoin de se dire comment on va mailler. Des partenariats avec plein d'écosystèmes. Et donc, c'est bien évidemment les collectivités, mais ça peut être la politique de la ville, ça peut être tout le sujet de la vie associative, ça peut être les entreprises, ça, comment je crée du lien et comment je suis une solution dans un parcours et d'un écosystème local. Et donc, ça, c'est le premier sujet, d'arrêter de vivre en vase clos et de s'ouvrir à mon écosystème. Un club sportif, et on en fait l'expérience, il doit y avoir 95% des clubs sportifs qui n'ont jamais été voir leur agence France Travail ou leur mission locale. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas décelé une offre de pratique. J'ai un exemple concret. J'étais il y a 15 jours à Marseille. Je vais voir la direction régionale de Marseille qui dit, nous, on adorait faire des trucs sur la pétanque. On est en sud. On est convaincu qu'on peut remobiliser des acteurs. Manque de pôle. L'après-midi, j'avais rendez-vous avec la Fédé de pétanque. La Fédé de pétanque m'a dit, nous, on adorait faire des trucs sur le sport. Et en fait, les gens ne se parlent pas. Et donc, déjà, la première étape, j'ai envie de dire, c'est de parler avec les gens de votre territoire. Et vous allez voir qu'il y a des choses à faire. Et notre enjeu à nous, c'est pas du tout. Nous, on pense que la solution, elle est locale. Nous, on pense que la solution, c'est de mettre les gens en relation et d'essayer de voir comment on lève des freins. Parfois, c'est des freins liés à la RH, parfois à la formation, parfois à l'accompagnement, parfois au financement. Donc, il y a des freins à lever, mais les solutions, elles sont sur le territoire.
Avant qu'on prenne deux, trois questions de la salle, toujours un peu cette question de la baguette magique. S'il y a un truc à changer là, dans le monde du sport, tiens, Chloé, tu es nommée ministre des Sports demain.
Félicitations.
Ta première mesure, c'est quoi? Enfin, qu'est-ce qu'il faut, sur quoi est-ce qu'il faut agir là? Ils sont où les leviers en ce moment, selon toi?
Les leviers, ils sont sur la formation, sur le fait de responsabiliser tout un chacun et de comprendre que le sport n'a pas à être le parent pauvre de la société. En fait, on ne fait pas reposer l'accès à la santé ou à l'éducation sur des bénévoles. Pourquoi l'accès au sport le serait? Donc, des politiques publiques qui viennent responsabiliser les fédérations, des agences et des institutions qui s'engagent vraiment pour que le sport devienne un sujet de société et ne soit plus le secrétariat d'un grand ministère, en fait, qu'il devienne un ministère à part entière
Ok,
avec de réels moyens.
donc tu veux être ministre de plein exercice, bravo, on est derrière
Voilà.
toi. Ça sera ta première mesure, quoi d'autre?
Quoi
Après.
d'autre? Une reconnaissance de ce qui est fait dans le monde bénévole comme valorisation dans le milieu professionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être bénévole, c'est devoir jongler avec un emploi du temps professionnel qui ne nous permet pas toujours de tout mener de front. Et donc, je pense que c'est toujours par cette question en fait, du service public. Ce n'est qu'en reconnaissant que ce que font les bénévoles est essentiel à la vie sociale qu'on va pouvoir leur donner aussi plus de moyens. Donc, pour moi, la question de la formation, de la montée en compétence du monde sportif associatif, c'est la clé du changement.
Merci. Olivier Arnaud, est-ce que vous voulez vous emparer de la baguette magique?
Bah écoute, moi oui, j'ai pas mal de sujets là-dessus. C'est que moi, je pense que, un, il faut reconnaître, valoriser les bénévoles et faire monter une génération de bénévoles. Et pour les faire monter enfin, pour les faire monter dans nos associations, il faut les indemniser. C'est pas un gros mot. Tu vois, je veux dire, aujourd'hui, un maire ou un maire adjoint, quand il est élu, il est rémunéré pour ça. Il a une indemnisation. Et aujourd'hui, quand on demande de donner du temps, de la compétence dans nos organisations sportives, il faut que ces gens ils puissent y aller en se disant, je ne vais pas sacrifier ma vie de famille, une partie de mon environnement professionnel juste pour ces causes-là. Et donc, il faut trouver aussi une manière de les valoriser. Il y a plein de choses. On peut imaginer des décharges dans leur boulot. On peut imaginer des trimestres de retraite. Voilà. Il faut qu'on aborde ce sujet du bénévole et du statut du bénévole pour qu'on engage une nouvelle génération à aller sur ces sujets-là. Il y a le sujet de l'emploi. Il faut développer de l'emploi dans nos clubs sportifs. Il faut des gens qui soient des professionnels formés. Il faut que sur la formation, on arrête de se dire que le métier central du sport, c'est l'éducateur sportif. C'est aussi des responsables de structures. Il faut qu'on ait des vrais managers à la tête de nos organisations. Il faut bien évidemment qu'on ait des éducateurs socio-sportifs, où on aborde des sujets sociaux. Et puis, le dernier sujet pour moi, c'est le financement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sport est financé à 90% par les collectivités, par les pouvoirs publics. Il faut absolument que les aides publiques soient conditionnées. Et donc, on doit avoir l'éco-conditionnalité quand on parle d'environnement. On doit avoir la socio-conditionnalité. Voilà. On aide les clubs qui s'engagent sur des programmes concrets, sur des programmes citoyens. Donc, je pense que c'est le dernier sujet qui me semble important.
Super intéressant. Y a-t-il des questions
Pas la baguette
dans la
magique.
salle? Ah ben non, pardon, excuse-moi. Alors, bien sûr, empare-toi de la baguette magique
Non,
aussi.
désolé, mais comme là, il y a des propositions auxquelles j'adhère complètement qui sont très précises, hein, finalement, très spécifiques. Moi, déjà, juste si on se souvient tous qu'il y a 4 ans, on était tous chez nous,
Ouais.
et du jour au lendemain, on s'est aperçu qu'en fait, les Français avaient besoin de mouvement et d'activité physique.
Ouais.
Le problème des attestations, c'était la priorité, c'était parce que les gens voulaient courir à plus d'un kilomètre, voulaient sortir plus souvent, voulaient, voilà. Et on avait oublié ça. Mais depuis, on l'a peut-être oublié à nouveau. Moi, j'ai vraiment envie qu'en France, cette vieille opposition à la Descartes, le corps, l'esprit, la dichotomie entre les deux,
Ouais.
on passe ça parce qu'on voit qu'on a besoin de corps, d'activité physique, de mouvement, de mise en pratique, de praxis. Pour les puristes, mais dès la naissance, on ne bouge pas assez. C'est des bombes à retardement que chaque enfant sur Terre qui apparaît dans les pays de l'OCDE, qui va être, on le sait, à 15 ans avec un risque de maladie chronique, mais à plus 150% par rapport à ce qui a toujours existé. Un déconditionnement fort. Et chez les personnes âgées, évidemment, qu'on retrouve ça en plus. Dans l'école, dans le mouvement, apprendre par le corps et par le mouvement, mémoriser par le corps et par le mouvement. Dans l'entreprise, j'anticipe peut-être certaines questions, mais dans l'entreprise, il faut accepter le corps de l'autre. On a parlé du handicap tout à l'heure. En France, on ne sait pas regarder le corps de l'autre. On ne sait pas accepter son propre corps dans le miroir et encore moins le corps de l'autre. Et donc, dès qu'on va arriver à vraiment décrisper le regard que peut avoir la société, que peuvent avoir les employeurs, que peuvent avoir les managers sur les gens qui bougent, qui pratiquent, qui vivent, qui ont un corps qui est différent, qui est un corps qui parfois est pas performant, ou même souvent, eh ben, je pense qu'on va aller vers une amélioration de la société.
Je veux bien rebondir sur ce qu'il dit parce
On y
que
va.
c'est essentiel, ça, que un chiffre, le taux d'obésité chez les enfants de moins de 15 ans a quadruplé en 25 ans. Quadruplé, hein. Donc, vous imaginez la bombe à retardement qui est en train d'arriver. Et aujourd'hui, le sport, ce n'est pas un sujet de débat en France. Tu vois, le sport, bah voilà, c'est le sport, c'est sympa, quoi. Mais regardez, j'étais avec Marie-Georges Buffet hier, elle me disait, c'est frappant. Regardez les élections. Les élections, il y a un programme sur la culture, il y a un programme sur l'éducation, il y a un programme sur... Le sport, on s'en fiche. Dernières élections présidentielles, ils ont invité le CNOSF, a invité les candidats, il y en a quatre qui sont venus, et il y en avait je sais pas combien. Donc, ce n'est pas un sujet. Et donc, je crois que ça doit être un sujet de débat public. Et si jamais ça devient un débat et que le sport est un sujet politique, et ben peut-être qu'on va réussir à cliver. C'est-à-dire, demain, si tous les bénévoles des clubs font grève, je vous assure que ça fera bouger les choses. Et pourtant, personne n'y va. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et si on n'y va pas, si on n'y va pas, c'est parce qu'il n'y a pas de débat. Et donc, il faut qu'il y ait un débat politique. Il faut absolument qu'on se dise, et Marie-Georges Buffet dit toujours ça, elle dit, on aura gagné le jour où on aura 1% du budget de l'État qui sera réservé au sport. Et 1% du budget de l'État, ça ferait multiplier le budget du ministère des Sports par 3 ou par 4. Et là, on aurait des ressources pour pouvoir avoir de l'emploi, pour pouvoir développer des compétences et pour mettre le sport là où il doit être.
Alors, la perche est trop belle, le débat, on y va. Y a-t-il des questions dans la salle? Questions à poser à nos intervenants qui ont traité déjà de plein de sujets. Est-ce que j'ai des invités trop timides ce soir? Non. Alors, ouais, question?
Moi, je voudrais poser une question. Avant d'arriver jusqu'à l'entreprise, vous en avez un petit peu parlé. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est dès l'enfance et dès l'école, en fait, qu'il faudrait déjà créer des choses vertueuses? C'est-à-dire que vous êtes déjà en master, c'est déjà pas mal. Mais est-ce qu'on n'a pas intérêt à redescendre, entre guillemets, la chaîne?
Alors, on y va, Chloé. Ouais, tu lèves le doigt gentiment.
Je prends une autre casquette, et là c'est ma casquette de prof de PS. Effectivement, dans les nouveaux programmes, dans ce que le Conseil supérieur des programmes essaye de transmettre petit à petit, il y a cette question à la fois du vivre ensemble. Donc là, on touche un peu aux thématiques RSO, d'épanouissement des parties prenantes, et donc on est 100% inclusion. Et puis aussi cette question de vivre dans le souci de son corps, d'être cultivé, lucide, autonome. Donc on est sur des thématiques qui sont normalement infusé dès les premiers stades de l'éducation. La réalité, bah, c'est que sur les 45 minutes quotidiennes qui doivent être faites en primaire, et ben, en réalité, il y a un tiers des enseignants qui n'est pas suffisamment formé pour le faire. Donc, est-ce qu'on se heurte là à une autre problématique qui est celle de la formation des enseignants et des politiques publiques de formation des enseignants qui sont faites au rabais. Et donc, forcément, c'est la qualité de l'éducation publique en France qui est là remise en question. Le club sportif ne peut pas se substituer à une politique publique d'éducation gratuite et donc d'un accès à la pratique sportive qui soit gratuit aussi.
Une autre question?
Et peut-être juste en complément,
Ouais.
avec des syndicats qui sont très très forts, parce que dans le primaire, le vrai sujet, c'est soit on forme nos enseignants pour qu'ils puissent justement répondre à ce besoin de santé publique, etc., et d'activité, soit on dit bah, ce n'est pas leur priorité, ou en tout cas, on ne peut pas tout leur demander. Et donc, il faut qu'il y ait des éducateurs qui y viennent pour former. Mais sauf que vous heurtez au syndicat qui dit non, mais ça doit être un seul référent, une seule personne. Donc, il y a une personne, mais qui n'est pas formée. Et on interdit à ceux qui sont formés de pouvoir rentrer dedans. Donc, c'est un peu schizophrénique.
Et puis on revient là aussi à la notion tout à l'heure qui était un petit peu centrale de l'éducateur au centre de l'activité physique et d'un éducateur qui a souvent été éduqué et en tout cas formé dans une visée compétitrice, performance. Et en fait, c'est ce qu'on l'a dit, on n'est pas dans cette visée-là chez les jeunes. Ils veulent s'amuser, ils veulent conserver leur santé, en tout cas arriver adulte dans la meilleure santé possible. Donc peut-être que mettre des éducateurs qui, eux, vont vouloir tirer des champions vers le haut, c'est encore là un contresens.
On a une deuxième question de la salle. Oui.
Moi, j'ai une question à poser. Samedi, il y avait la Journée nationale du sport en handicap. Est-ce que quelqu'un était au courant?
Alors, journée du sport et handicap. Messieurs, dames, vous étiez au courant?
Bah moi, j'étais au courant parce que j'ai eu la chance de rencontrer Marie-Émile Le Fur, qui est la présidente du comité paralympique. Donc, oui, j'étais au courant. Mais en tout cas, j'imagine que ce qui est derrière, c'est
Ouais.
comment on fait connaître ces journées-là, et surtout comment on travaille l'inclusion des personnes en situation de handicap. Genre, je le disais tout à l'heure, les chiffres sont effrayants. Alors, il y a des dispositifs qui existent, hein. Il y a un dispositif qui est lancé par le comité paralympique qui s'appelle les clubs inclusifs, donc il vise à former des éducateurs et le club d'une manière générale sur l'accueil de ces publics-là. Mais la marche, elle est vraiment... on est sur du temps très très bon.
Oui,
Et
Chloé.
puis dans les clubs aussi, c'est quelque chose que nous, on essaye de mettre en place. Je ne sais pas si c'est fait dans d'autres fédérations, mais à travers des services civiques. donc un emploi de jeunes qui sont très souvent soit des demandeurs d'emploi, soit des étudiants, on forme des auxiliaires de vie associative. Donc un peu à la manière des AESH dans le monde scolaire, on vient former des gens qui vont pouvoir faciliter l'accès de personnes en situation de handicap pour pratiquer dans des groupes qui sont valides. Donc, on ne crée pas spécifiquement une section pour eux, mais en tout cas, on facilite par l'humain leur capacité à pouvoir pratiquer. Alors, sur un temps qui reste court, et c'est là où la baguette magique serait utile, c'est qu'un service civique, on est sur un laps de temps assez restreint, et donc ce ne sont pas des emplois qui sont pérennes. Donc, en fait, on donne une solution, mais qui est de nouveau, qui s'arrête de nouveau au bout d'un certain temps.
Merci à tous les trois. On va s'arrêter là. On a vu que le sport est un univers inspirant par toutes les actions qui sont mises en œuvre justement pour créer encore plus d'inclusion et de diversité. C'est un univers qui s'est profondément transformé, vous l'avez cité tous les trois, mais dans lequel il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. On a hâte de voir un peu comment est-ce que les choses vont évoluer dans les prochaines années. Merci Arnaud, merci Chloé, merci Olivier.
Merci Yvan.
Merci.
Et voilà, c'était By Doing Good, le podcast de l'innovation sociale raconté par ceux qui la font. Merci pour votre écoute. J'espère que cet échange vous aura inspiré et donné envie, vous aussi, de vous engager pour l'innovation sociale. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Rendez-vous sur www.bigbloom.org pour découvrir tous nos prochains hackathons solidaires à venir. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine.